Salut, c'est Cléo et bienvenue sur Championne du Monde, le podcast des femmes qui construisent le sport de demain. Alors, pas besoin d'être championne du monde pour passer ici. Toutes les deux semaines, on vous fait découvrir la voix de femmes qui incarnent le sport et font bouger les lignes. Athlètes, journalistes, médecins ou même ta mère, fan de Kevin Mayer, on part à la rencontre de nanas qui déchirent et surtout toujours plus badass que la plus badass de tes copines. Bonne écoute! Pour la plupart des athlètes, la plus grande angoisse, la peur, présente à chaque entraînement et compétition, c'est la blessure. Celle qui vous force à arrêter, à prendre plusieurs mois de repos, celle qui vous empêchera peut-être même de retrouver votre niveau. Cette peur, Tiffany Yeomarchand, patineuse de vitesse, la connaissait sans la connaître, car elle n'avait en 13 ans de sport de haut niveau jamais vraiment été blessée. Jusqu'à ce 9 octobre 2022, où elle ne se relèvera pas d'une chute provoquée par l'une de ses concurrentes en compétition aux Pays-Bas. Allongée sur la glace, son corps ne réagit plus. Elle s'est fracturée la cinquième cervicale et se retrouve entièrement paralysée. Depuis 9 mois, Tiffany se bat pour pouvoir remarcher, courir, mais surtout patiner. Son objectif numéro 1 depuis sa chute. Si les deux premiers ont pu être cochés, elle a appris il y a quelques semaines qu'elle n'aurait plus jamais l'autorisation de patiner en compétition, car sa moelle épinière est beaucoup trop fragile. Elle a accepté de revenir dans Championne du Monde sur sa carrière de sportive de haut niveau et sur la façon dont elle aborde l'avenir depuis l'annonce de la décision fatidique. Un récit d'une battante et d'une combattante qui force l'admiration et la preuve que les objectifs peuvent nous aider à nous relever. Salut Tiffany.
Salut.
Première question, mais pas des moindres, comment est-ce que tu vas ?
Un peu compliqué. C'est un peu compliqué en ce moment, mais dans l'ensemble, ça va quand même.
Je suis très contente qu'on puisse se parler aujourd'hui. On s'était rencontrés il y a plus de 2 ans maintenant, dans le cadre de l'Académie des sportives à Font-Romeu, là où tu habites d'ailleurs. J'en garde un super souvenir, moi, pour le coup. Je ne sais pas si toi, c'est la même chose.
Mais c'était... Ah, mais moi aussi, ouais, on avait bien rigolé. C'était vraiment cool.
C'était une belle joyeuse bande de sportives extraordinaires. Et j'en garde un très bon souvenir, donc je suis très contente qu'on puisse se revoir aujourd'hui, 2 ans après. Il s'est passé des choses pour toi pendant ces 2 ans.
Oui.
C'est le moins qu'on puisse dire. Et voilà, oui, ça me tenait à cœur en fait aussi qu'on puisse se revoir et que tu puisses nous raconter ton histoire. Donc merci beaucoup d'avoir accepté.
Avec grand, grand plaisir.
Écoute, ce que je te propose, déjà, pour reparler un petit peu aussi de ta carrière sportive, tu fais un sport qui est malheureusement assez méconnu, qui est le short track, ou patinage de vitesse, on peut aussi l'appeler comme ça. Pour rapidement citer ton palmarès, vous êtes devenue championne d'Europe en 2021, je crois, sur 3000 mètres.
Oui, c'est ça.
En équipe, et également vice-championne du monde, la même année.
Oui, c'est ça.
En équipe également, sur cette même distance.
Oui.
Donc un très beau palmarès, dont on a malheureusement, et je tiens à dire, pas assez entendu parler à ce moment-là. Et je crois que le short track, c'est une histoire d'amour depuis que tu es toute petite. Je crois que tu as commencé, tu avais 8 ans, c'est ça ?
Ouais, j'avais 9 ans.
9 ans ?
Ouais.
Comment ça s'est passé ?
Déjà, c'était mon premier sport en club. J'avais jamais pratiqué avant. Et j'ai débuté totalement par hasard. Il se trouve que je viens d'un tout petit village du Doubs et on est moins de 100 habitants. Et ma voisine faisait du short track. Elle a découvert qu'il y avait un club à Belfort et elle a proposé à ma sœur jumelle et moi de les accompagner. Ce qu'on a fait et c'était parti.
Ça a été le coup de foot direct ?
Ouais.
Qu'est-ce qui t'a plu dans ce sport ?
Déjà, on n'était jamais allé dans une patinoire non plus.
Ouais.
C'était la première fois que je rentrais dans une patinoire. Première fois que je mettais des patins. Et révélation. Tu te dis, pourquoi je ne suis pas venue ici avant ?
Pourquoi on ne m'a pas montré la patinoire ? Et c'est le côté vitesse, le côté... Qu'est-ce qui t'a... Parce que j'imagine que quand tu commences la vitesse, tu ne l'as pas forcément.
Oui, j'allais dire, c'était pas vraiment la vitesse au tout début. Non, c'était plutôt déjà l'esprit club. C'était vraiment un très très bon club. Et d'ailleurs, je suis dans ce même club à Belfort encore aujourd'hui. Les copains-copines, le fait que ce soit... un nouveau sport d'ailleurs. Puis oui, la glisse, les cascades, les petites chutes, ouais. Tout ça.
Comment l'envie d'en faire presque ton métier, j'ai envie de dire, ça a été une évidence. Comment ça s'est passé ?
Alors, j'aimerais dire que c'est un rêve de gamine, mais pas du tout.
Okay.
Moi, je faisais ça juste pour m'amuser. D'ailleurs, souvent sur les compétitions, avec ma sœur, on était dernière et avant-dernière.
D'accord.
C'était vraiment pas de grosses performances. Et en fait, d'année en année, on a toujours continué. Et en 2009, on a décidé d'aller au lycée à Belfort, pendant que tous nos copains et copines allaient au lycée à Besançon, pour nous rapprocher de la patinoire.
D'accord.
Et donc, on a commencé à rajouter un entraînement par semaine. Donc, c'était pas beaucoup, mais ça nous plaisait. Et l'année qui a suivi, donc en 2010, on a intégré l'équipe de France junior. On a toutes les deux été prises. Et là, on est passé de 3 entraînements par semaine à 2 entraînements par jour.
Ah oui.
Donc à ce moment-là, je me suis dit, ben oui, c'est possible. Et oui, j'ai envie d'aller aux Jeux Olympiques et d'en faire mon métier, ouais.
Ça a été un passe-temps plaisir qui, en fait, c'est... professionnalisé, on va dire, au fur et à mesure du temps, finalement.
Ouais, exactement. Après, malheureusement, c'est un sport amateur. Mm-hmm. Donc, il n'y a pas de professionnel et on ne peut pas être payé pour ça. Mais depuis 2 ans, je suis avec l'INSEP. Donc, j'ai un contrat qui me permet de patiner et qui me permettait de patiner. Et d'être rémunéré pour ça.
Oui, donc c'est vrai que c'est important de le dire aussi, parce que souvent, quand on parle de sport de haut niveau, on pense forcément au sport professionnel, mais malheureusement, dans plein de disciplines, ce n'est pas encore le cas. Et effectivement, du coup, pour en vivre, c'est beaucoup plus compliqué, quoi.
Oui. Et
donc, du coup, après, ça s'est enchaîné, finalement. T'es rentré dans le processus de sportif de haut niveau, et après, j'imagine que les compétitions ont commencé à s'enchaîner, et puis t'étais dans la matrice, quoi.
Clairement dans la matrice. En 2010, j'ai fait les championnats du monde junior, donc ça allait très vite. Mmh. J'ai pas fait de performance non plus à ce moment-là, mais j'ai eu comme une révélation. Je me suis dit, bon, bah, ok, maintenant je vais m'entraîner pour pouvoir avoir le niveau de jouer sur le haut du tableau. Et donc, assez rapidement, je me suis retrouvée sur le circuit des Coupes du Monde. Et ensuite, en 2018, j'ai participé à mes premiers Jeux Olympiques.
Tu as fait 2 Olympiades.
Ouais, 2018 à Pyeongchang, en Corée du Sud, et 2022 à Pékin, où ça s'est pas très bien passé, mais oui, 2 Olympiades.
Quand même c'est quand même extraordinaire en tant qu'athlète de pouvoir faire des Olympiades, donc j'imagine que c'était quand même aussi une grande fierté pour toi et une sorte de rêve, comme tu dis, enfin de rêve, non, pas de rêve, parce que tu as dit l'inverse, mais en tout cas un objectif à partir du moment où tu deviens sportif de haut niveau.
Non, mais clairement. Et puis après, c'est devenu un rêve quand même, il faut le dire. Quand tu passes à t'entraîner 2-3 entraînements à 2 fois par jour, tu te dis, ben, maintenant, je vais mettre toutes les chances de mon côté pour aller au jeu. Ouais. Donc, assez incroyable.
La première Olympiade, j'imagine que c'est toujours quelque chose de particulier. C'est vrai que la deuxième, vous aviez fait des bons résultats sur les mois, années passées. Et j'imagine que du coup, vous aviez aussi des ambitions qui étaient plutôt hautes. Et tu disais que ça avait été un peu une déception pour toi.
Ça a été une grosse déception, ouais. Déjà, pour revenir sur 2018, c'était mes premiers Jeux. Mmh. Et j'étais vraiment très, très fière. J'étais super heureuse. J'étais clairement outsider. Donc, j'y allais zéro pression. Puis, je crois que j'ai terminé 20 et 21e. Quelque chose comme ça, donc voilà.
C'est déjà très bien.
Ouais, mais c'était mes premiers Jeux, j'avais vraiment pas d'attente particulière. Et puis ensuite, après ces Jeux, je me suis dit, bon bah ok, c'était une expérience de dingue. Mais par contre, dans 4 ans, je veux revenir et je veux faire une finale olympique, je veux décrocher une médaille. Et donc j'ai eu la tête dans le guidon pendant 4 ans. Et ouais, en 2021, on a fait de sacrés résultats avec les filles. Et malheureusement, c'est pas sélectionné en relais au jeu. Mmh. Donc déjà là, ça a été une grosse, grosse déception. Et puis ensuite, avant les Jeux, toute l'équipe de France a eu le Covid un mois avant de partir.
D'accord.
Donc vraiment coup dur. Et moi, j'étais la dernière à l'avoir eu. Donc je pensais un peu passer entre les mailles du filet, mais pas du tout. Et pire que ça, j'ai eu un Covid long. Donc durant tout le mois de janvier, complètement à plat. Et c'était stressant parce que pour aller en Chine, on devait faire des tests. Tout était sous une procédure bien particulière. Et je ne savais pas si j'allais pouvoir me rendre aux Jeux Olympiques.
Okay.
Et au final, j'ai pu y aller. Sauf que j'étais
affaiblie.
Vraiment plus qu'affaiblie. Et je me suis dit, bon, ben, c'est pas grave, j'essaierai de tout faire avec ma tête. Et puis ça ira. Mais en fait, pas du tout. J'étais beaucoup trop fatiguée. Donc. Donc ouais, ça a été vraiment des jeux assez compliqués.
Et qu'est-ce qui s'est passé après? Quel a été comment t'as réagi en fait justement après ces jeux-là? Qu'est-ce que tu t'es dit?
Pendant les jeux, c'est vrai que ça a été vraiment, vraiment ultra rude parce que je me fais disqualifier sur la première distance. Je tombe sur la première distance, je me fais disqualifier sur la deuxième distance et sur la troisième, j'étais complètement à la rue, vraiment trop fatiguée, j'étais très très loin. Sachant que sur le relais mixte, on est tombé aussi, donc je pense que je ne pouvais pas faire pire Jeux Olympiques que ça. À la suite de ça, nous, on a les championnats du monde chaque année, donc on avait les championnats du monde après les Jeux Olympiques.
Donc ça s'enchaînait juste après, donc
un mois après, ouais.
Ah ouais, costaud.
Et en fait... je me disais, bon, bah, là, je vais tout donner pour me relever. Et j'ai gagné la petite finale sur 1500 mètres. Donc, ça me fait arriver 8 ou 9e sur une distance. Donc, j'étais vraiment très contente. Et à la suite de ça, je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave. Il reste encore des Jeux Olympiques dans 4 ans. Et puis, même si c'est long, 4 ans, entre-temps, tu as des Coupes du Monde, tu as des championnats. Tu as le temps de faire la course, de te relever et de faire de belles perfs. Et donc, j'étais partie dans cette optique jusqu'à ce mois d'octobre.
Oui, jusqu'à ce mois d'octobre 2022, du coup, aux Pays-Bas.
Oui, c'est ça.
Sur une course où tu tombes. Fait de course, on va dire, plutôt malheureusement, ça arrive souvent. Sauf que là, tu te réceptionnes mal, tu tapes mal. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup ce qui s'est passé à ce moment-là?
Ouais, alors c'était une compétition aux Pays-Bas, c'était une compétition qui servait de sélection pour les Coupes du Monde. Donc j'y allais vraiment zéro pression. J'avais déjà fait une compète avant à Fourmeux, ça s'était très bien passé. Donc je tiens quand même à dire que j'étais pas stressée, il n'y avait pas d'éléments extérieurs. Et on était sur le 1000 mètres, c'était la dernière journée de la compétition. Je vais pour faire un dépassement et là j'ai une adversaire qui perd ses appuis. Et qui me fait chuter, mais ça arrive. Mmh. C'est vraiment quelque chose de courant. Et oui, je me réceptionne mal dans les protections. Sauf que, encore une fois, je suis tombée 3 milliards de fois. Sauf que j'étais jamais tombée à cet endroit du virage. Et mes pieds sont arrivés face contre les protections. Et ma tête a heurté violemment mes genoux, ce qui fait que ma tête est repartie en arrière et ça... fracturé, déplacé la cervicale 5 et compression de la moelle épinière.
Et à ce moment-là, du coup, tu es encore consciente?
Ouais, j'aurais préféré perdre connaissance, mais non, j'étais encore bien, bien là. Sauf que c'est indescriptible la sensation que tu as quand tu sens plus rien, justement. Et donc, ça a tapé. Et là, je me suis dit, mais non, mais c'est pas possible, je sens plus rien. Ton premier réflexe, c'est. T'essayes de te relever parce que tu dis les filles elles vont refaire un tour, elles peuvent te tomber dessus, ça peut être dangereux, ouais. Donc tu dois te relever vite et puis t'enlever de cette zone du virage. Et en fait je pouvais pas me lever, je pouvais même pas bouger les mains. Et là je me suis dit mais non, je suis paralysée. Et en fait on m'a expliqué aussi que la cervicale 5 elle reliait le souffle et donc j'avais pas le souffle coupé, mais en fait je pouvais pas crier et pas pleurer. Donc on aurait dit un peu une psychopathe parce que je parlais tout doucement et je disais juste en boucle je suis paralysée, venez vite, je suis paralysée. Et j'ai attendu les secours.
T'as compris tout de suite que c'était hyper grave?
Ah oui, ben j'ai tout de suite compris que c'était super, super grave. De toute façon, quand j'étais en train de glisser, je me suis dit, bon, ben là, tu vas te faire mal. Je me suis dit, t'es jamais tombée comme ça, tu vas vraiment te faire mal. Mais j'ai jamais envisagé de me fracturer une cervicale. Je pensais que j'allais me casser un tibia ou une cheville. Et puis ben là, je me suis dit, mais non, je ne peux plus rien bouger, je suis vraiment paralysée. Et c'était vraiment dingue parce que je me disais, ben, je suis paralysée. Puis ensuite, je me disais, non, mais ce n'est pas possible, tu vas remarcher, tu vas recourir, tu vas repatiner et puis tout ira bien.
C'est tout de suite ce que tu t'es dit, même encore presque sur la glace, alors que ça venait d'arriver, c'est des choses qui t'ont traversé directement l'esprit.
Mais en fait, ma tête allait vraiment à 10 000 à l'heure. Mmh. Je me suis dit ça directement. Je me suis dit, c'est impensable. Je vais vraiment remarcher. Je ne veux pas être en fauteuil. C'est pas possible. Puis ensuite, tu as des idées quand même un peu morbides qui te passent un peu par la tête parce que tu ne sais pas comment réfléchir. Puis ensuite, tu te ressaisis et tu dis non, mais arrête de penser à ça. Ça va aller.
C'est fou, c'est-à-dire que même quand tu as chuté, tu savais que tu allais te faire mal. c'est quelque chose que vous avez tellement l'habitude de chuter, entre guillemets, que vous savez quand est-ce que presque vous allez vous faire mal et où ça va moins faire mal.
Ouais, ben, tu le sens déjà. En tout cas, moi, j'étais jamais tombée comme ça.
Ouais.
Et puis, on apprend à chuter. Donc, oui, il y a des chutes en short track, mais généralement, on se fait pas mal.
Mmh. Oui, j'imagine que c'est une des premières choses que vous apprenez aussi, oui. D'ailleurs, quand vous commencez à patiner.
Oui, oui, clairement.
Qu'est-ce qui se passe après donc, t'as été directement envoyé à l'hôpital. Je crois qu'on t'a opéré dans la foulée, d'ailleurs, directement. Ça a été très vite.
Ouais.
Comment t'as vécu ça? Est-ce que t'étais consciente de tout ce qui allait, j'allais dire, presque que t'allais devoir surmonter, quoi, derrière?
J'étais à des années-lumière de tout ça. Déjà, je ne m'étais jamais blessée. Donc, j'avais beaucoup de respect pour tous les athlètes qui se blessent et qui reviennent. Parce que je me dis, mais c'est incroyable, tu dois passer par tellement d'étapes que... Ouais, j'ai beaucoup de respect pour tous les athlètes qui reviennent après une blessure. Et puis, heureusement qu'on m'a opérée rapidement, ouais. Parce que c'est ce qui a aidé aussi à ma récupération. Et au début, j'étais dans le déni total. Donc, je ne savais pas du tout ce qui m'attendait. Je me disais juste, oh ben mince, il faut absolument que je sois prête pour dans 2 semaines en Coupe du Monde.
D'accord.
Mais vraiment en déni total. Et après, je me disais, quand je me suis rendu compte que je ne pouvais plus marcher et que j'étais paralysée, dans mon lit d'hôpital le lendemain après l'opération, je me suis dit, bon, bah, peut-être que je pourrais être sur les championnats d'Europe en janvier.
Oui, dans quelques mois, quoi.
Ouais, non, mais toujours dans le déni. Ouais. Hein. Donc, ouais, ça a été très long.
Les premières pensées, c'était le sport.
Ah, mais tout de suite, dès que je pensais au patin, dès que je pensais à la glace, je me mettais à pleurer. Je me disais, mais c'est pas possible, j'ai juste envie de patiner.
C'était pas, enfin, presque ta vie quotidienne, j'allais dire. Ça a été vraiment presque une obsession, ça a été de pouvoir refaire du sport.
C'était clairement ça qui me passait par la tête, ouais.
Parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais en fait, t'aurais pu décéder sur le coup. C'est malheureusement quelque chose qui est assez fréquent, je crois, quand on se fracture la C5.
Ouais.
Donc, ça aurait pu être fatal à ce moment-là. C'est... Toutes ces choses-là, finalement, c'est des choses que tu as mis presque de côté. Enfin, c'était vraiment le sport, le sport, le sport.
C'était vraiment ça. Et puis, je ne pouvais pas répondre aux messages, je ne pouvais pas me servir de mon téléphone, je ne pouvais rien faire vu que j'étais paralysée. Et j'ai demandé à ma sœur de poser mon téléphone pour que je puisse enregistrer une vidéo. Et c'est là où j'ai enregistré cette fameuse vidéo que j'ai postée il n'y a pas longtemps, où je dis que je jure de tout faire pour remarcher, recourir et repatiner. Mmh. Et en fait, c'était vraiment ça, mes 3 objectifs. Et je ne savais pas du tout ce qui m'attendait, en fait. Je ne savais pas que j'allais devoir réapprendre à manger toute seule, réapprendre à tenir un stylo. En fait, toute cette rééducation-là, je ne l'ai pas du tout imaginée.
Et pourtant, je crois que les médecins, ils ont été plutôt alarmistes, même. Ils t'ont dit qu'ils n'étaient même pas sûrs que tu puisses remarcher un jour.
Ouais, ils m'ont dit que je remarcherais. Bah, mon chirurgien... Juste avant de m'opérer, il m'a dit que je ne remarcherais probablement plus jamais. Le lendemain, quand il est venu, il m'a dit « Bon, bah, si tu remarcheras peut-être dans un an, on ne sait pas, personne ne sait. » Donc ouais, c'était très grave.
Ça, c'est quelque chose que tu t'es jamais dit « Ok, j'accepte, on verra. » Ça a tout de suite, on a l'impression que ça a tout de suite été, même quand il te dit « Peut-être que tu ne remarcheras plus jamais », pour toi, ce n'était pas possible.
Non, mais c'était hors de question. En plus, quand tu es sportif de haut niveau... Tu fais ça tous les jours. Le sport, c'est un besoin. Donc tu dis être immobilisé, mais c'est terrible. Et en fait, je voulais pas l'entendre. Donc quand on me disait ça, je l'écoutais pas. J'étais dans la pure folie. Donc je lui disais OK, sauf que j'en pensais pas moins. Enfin, j'en pensais pas du tout ça, pardon.
Est-ce que c'était aussi un mécanisme de protection aussi, peut-être, j'imagine, pour toi de... Parce que c'est trop dur à entendre, ça?
Parce que je ne l'ai jamais envisagé.
C'était pas possible.
Non, c'était pas possible, non.
Qu'est-ce qui s'est mis en place après dans ton cerveau? Tu as été opérée, tu as été rapatriée en France, parce que tu es restée quelques semaines aux Pays-Bas après ta chute. Et du coup, le processus a démarré en France, en fait, pour ta convalescence. Comment tu as envisagé ça? Qu'est-ce qui te passait par la tête dans ces moments-là, j'imagine, où tu étais dans une chambre d'hôpital? Où tu dois avoir des moments aussi où tu es en permanence face à toi-même dans ces moments-là. Comment tu le vis, ça?
Alors, j'ai passé un mois aux Pays-Bas, mais j'ai eu la chance d'avoir au début mon coéquipier qui est resté après la compétition avec mon manager. Et ensuite, assez rapidement, j'ai eu ma mère, ma sœur, ma nièce et mon copain qui sont venus. Mon copain est resté tout le mois avec moi aux Pays-Bas. Et ouais, j'ai eu beaucoup de chance qu'il soit à côté de moi. Puis ben, assez rapidement, je me suis dit, bon, ben, il faut absolument que j'intègre un centre de rééducation pour débuter les soins. Parce que là, j'étais dans un hôpital. Donc,
il y avait quelque chose de plus adapté.
Exactement. Et puis ensuite, après les Pays-Bas, je suis allée à Besançon pendant 10 jours. Là, ça a été vraiment compliqué parce qu'ils m'ont mis dans un centre neuro où ils avaient très peu de personnel. Donc j'ai vraiment beaucoup régressé. Ils m'ont alitée pendant plus d'une semaine. Et là, j'étais vraiment pas bien. Parce que je me disais, mais je suis en train de perdre l'avance que j'avais gagnée aux Pays-Bas. Ouais. Ça allait vraiment pas. Puis ensuite, quand j'ai intégré le centre de rééducation, là, je me suis dit, OK, les choses sérieuses vont commencer. Et puis je vais pouvoir débuter la réathlétisation.
C'est fou, hein, quand on t'écoute, on a vraiment cette sensation que c'était... T'étais presque, t'avais un programme, bah comme en fait, le même raisonnement qu'une sportive de haut niveau. Quoi. C'était OK, il s'est passé ça. Bah en fait, hop, en tant de temps, je veux réussir à faire ça. Tu t'es donné des objectifs toute seule, en fait, dans ta tête, de remarcher, de recourir.
Je pense que c'était un peu aussi comme une planification d'entraînement. Tu te dis, bon, bah, hein, tu vas fonctionner par cycle. Ce cycle-là, il vient d'être terminé. Donc cet objectif, il a été atteint. Maintenant, tu vas t'en fixer d'autres. Et puis. Jour après jour, semaine après semaine, je voyais un peu ce qui avançait. Et d'ailleurs, quand j'étais aux Pays-Bas et que je pouvais me servir de ma main gauche, parce que ma main droite a été paralysée pendant longtemps, et même au début d'ailleurs, quand je ne pouvais pas bouger, je dictais à mon téléphone tous les progrès que je faisais jour par jour. En fait, j'ai tenu un cahier d'entraînement, parce que je considère que c'était quand même de l'entraînement, depuis le premier jour jusqu'à quasiment aujourd'hui.
Tu as documenté tous tes progrès?
Ouais, même si c'était minime. Par exemple, juste mon index qui bougeait un tout petit peu, je le marquais. Je marquais vraiment tout ce qui progressait chaque jour.
C'était une manière pour toi aussi de garder espoir et de voir aussi que ça allait vers le mieux. Et donc de aussi, j'imagine, pour toi, de te faire du bien, de voir que ça progressait, quoi.
Ah ben, clairement. De toute façon, je me disais, ben là, ça peut pas être pire. Donc, il va falloir... progresser tous les jours jusqu'à atteindre le maximum.
Il y a des choses qui te permettaient de sentir mieux dans ces moments-là?
Ce qui me faisait vraiment du bien, c'était quand même mon entourage, parce que je pouvais parler. Je pouvais parler librement et en fait, j'étais en boucle sur le patin, j'étais en boucle sur l'accident et ma sœur est super parce qu'elle m'a écoutée jour et nuit pendant des mois, et surtout pendant le premier mois, parce que j'étais vraiment, vraiment, vraiment en boucle. Donc ça, ouais, ça m'a aidée. Et puis, c'était des situations tellement improbables qu'à certains moments, Tristan, mon copain, et ma sœur Manon rigolaient entre eux. Et de les voir rire, bah, ça me faisait du bien parce que ça dédramatisait un peu la situation.
Et quand tu dis que tu étais en boucle, c'était quoi le sentiment qui prédominait? Tu étais en colère?
Ah non, pas du tout. J'ai jamais été en colère. J'étais triste. J'étais vraiment triste. Je me disais... j'ai juste envie de patiner et voilà, c'est tout.
Et le reste, c'est-à-dire la vie commune, entre guillemets, c'est pas que ça t'intéressait pas, mais c'était vraiment complètement secondaire?
Ben, au début, c'était vraiment secondaire, ouais. C'est quand j'ai intégré le centre de rééducation à Lyon, où là, je me suis dit, ah ouais, en fait, ça va être plus compliqué que prévu. Par exemple, ça a mis beaucoup de temps avant que je récupère ma main droite. Encore aujourd'hui, pour écrire, j'écris tout doucement. Donc là, à ce moment-là, je me suis dit, ah oui, il va falloir quand même que tu réapprennes à te doucher seule, à faire tous les gestes du quotidien en autonomie. Et là, je me suis dit, le sport, ça va venir après.
T'as pu remarcher hyper vite, alors qu'on t'avait quand même dit que potentiellement, tu ne remarcherais plus jamais, ce qui n'est pas le cas de toutes les autres personnes qui ont des blessures similaires. Est-ce que tu t'es rendu compte quand même que ton avancement était rapide et que tu progressais vite, quoi? Ou c'était pas assez vite pour toi?
Mais en fait, vu que j'étais dans le déni au début et que je me disais, bon, bah, j'espère être de retour cette année sur les Coupes du Monde, je me disais, bon, bah, ok, j'ai fait mes premiers pas en 10 jours. Je me disais, ok, bon, bah, c'est bien, mais je me disais pas, waouh, c'est super rapide.
Ouais, non, t'arrivais pas, c'était jamais assez, entre guillemets, quoi.
Ouais, tête dans le guidon, et je me disais, bon, bah, ça, c'est coché, maintenant, on passe à la prochaine étape.
J'imagine pourtant que les gens qui t'entouraient, que ce soit ta famille, ton copain, même le personnel médical, devaient te dire que c'était assez exceptionnel, quand même, ce qui se passait.
Mais en fait, ça, j'en garde un très bon souvenir, parce que toutes les infirmières... Enfin, il y a eu beaucoup, ben, pas mon chirurgien parce que je pense qu'il était, il devait pas être dispo puis ça l'intéressait pas. Mais toutes les infirmières étaient super bienveillantes. Ils se sont tous mis dans le couloir et ils m'ont tous applaudi. Et franchement, c'était quand même assez émouvant. Et mon copain était super content. Et ma sœur a pleuré comme une madeleine quand elle a reçu la vidéo. Donc ouais, ils se rendaient compte, eux, que c'était rapide.
Et pas toi.
Ma tête dans le guidon.
Et comment ça se passe? Tu parles beaucoup de ton entourage, effectivement, que ça t'a permis justement de te sentir entourée, d'avoir quelqu'un, des personnes qui t'écoutent. D'un point de vue sportif, comment ça s'est passé du coup? Parce que c'est vrai que t'as ton équipe, etc. Est-ce que tu t'es sentie soutenue, accompagnée là-dedans?
Oui, ben, après, j'avoue que je me tenais un peu à l'écart de mon équipe. J'ai regardé toutes les Coupes du Monde. J'ai suivi toutes les courses quand j'étais à l'hôpital et puis même après. Mais j'envoyais pas trop de messages parce que j'essayais de me protéger psychologiquement, mm-hmm. de pas me sentir en dehors de tout ça.
Ça t'atteignait trop de voir tes coéquipiers, coéquipières continuer de patiner alors que toi, tu pouvais plus?
En fait, je trouvais ça totalement normal. Et ça me plaisait de voir les courses, sauf que oui, je voulais me tenir un peu à l'écart des groupes sur lesquels on peut discuter, de tout ce genre de moyens de communication.
Et ensuite, du coup, donc, ça a été plusieurs mois de rééducation. Je crois que tu es passé par Cap-Breton, tu as fait des allers-retours. Il y a eu un petit moment à Bali aussi.
Oui.
Comment s'est passé ce chemin-là et ce cheminement-là? Qu'est-ce qui était important pour toi, justement, dans ta rééducation, puis réathlétisation? Est-ce que tu avais des objectifs précis?
Clairement. En fait, mes objectifs principaux, c'était de me préparer pour les tests que je devais réaliser pour la reprise du short track en compétition. Mmh. Donc, au début, je ne savais pas vraiment ce que ça allait être. Donc, j'étais un peu dans le flou. Donc après Lyon, je suis partie à Bali pour faire une formation de professeur de yoga. Mmh. C'était aussi une première étape de réathlétisation pour moi. Puis ensuite, j'ai intégré le CERS à Cap-Breton. Et là, par contre, ben, c'était vraiment intense pendant 3 semaines. Et donc, j'ai réalisé ces tests qui ont bien montré que j'étais plus en forme qu'avant les tests de pré-saison des Jeux Olympiques.
D'accord. Donc, ils ont fait un comparatif avec les tests que tu avais réalisés, ouais, avant les Jeux. Ok.
Donc j'avais quand même, j'ai quand même bien récupéré.
Ok. Et Bali, ça a été un interlude pour aussi t'extraire un petit peu de tous les mois que tu avais vécu et la difficulté aussi, j'imagine, pour un peu respirer.
Tout à fait. Alors en fait, j'ai rencontré un ami au centre de rééducation et Gaspard était allé à Bali. Il m'en a beaucoup parlé et un peu comme un symbole, je regardais cette formation de professeur de yoga depuis 2 ans, sauf que ça tombait toujours au mauvais moment. Puis là, je me suis dit, bon, ben, ça va tomber au bon moment parce que ça sera un mois après le centre de rééducation. J'ai passé je ne sais combien de mois dans les hôpitaux. J'ai pas envie de me retrouver sous la grisaille en France. Donc j'ai pris mes affaires et je suis partie à Bali.
Et donc, tu as fait quelques semaines, je crois, même presque un mois, non?
Plus d'un mois et demi.
Ah oui.
Ouais.
Ça t'a fait du bien? Ça a été une vraie parenthèse pour toi qui t'a permis de te recentrer aussi sur d'autres choses?
Oh, clairement.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Je considère que cette île guérit vraiment les maux, mais vraiment, ça m'a fait énormément de bien, que ce soit avec cette formation, mais même après, puisque mon copain m'a rejoint et on a vadrouillé un peu partout. Et franchement, c'est une île incroyable.
Tu as eu le sentiment de guérir, bah, tu disais oui, guérir des maux, mais de guérir des plaies aussi et de te renforcer différemment?
Ouais, je pense. Puis tu as l'impression que tout est possible. Vraiment. Donc après ça, je me disais, mais ouais, c'est OK. Je peux rentrer en France et tout va bien.
Ça a été, t'as eu l'impression de devenir invincible là-bas? On a ce sentiment-là.
Mais en fait, ça respire énormément de liberté. Déjà, tu vois, je me sentais bien parce que je pouvais monter derrière quelqu'un en scooter. Personne n'était là à me dire, bah non, tu peux pas faire ça parce que tu t'es fait opérer. En fait, ouais, tu fais ce que tu veux quand tu veux et t'as l'impression que t'as pas été blessé, que t'as pas eu d'accident.
T'as le sentiment depuis ton accident que t'es restreinte dans ta vie?
Non, mais j'ai beaucoup de séquelles, quand même, qui m'empêchent pas de faire du sport, mais j'ai des séquelles dans la vie de tous les jours. Et ça, c'est quand même pesant, parce que je m'en passerais bien.
Le fait d'être à Bali, t'as retrouvé, entre guillemets, une sorte de liberté aussi, peut-être que tu n'avais pas ressenti depuis longtemps.
Exactement, oui. Et puis, le temps aussi, ça joue énormément. Quand il y a beaucoup d'humidité ou quand il pleut, j'ai des douleurs qui sont beaucoup plus prononcées.
Ouais.
Et du coup, là-bas, c'était moins le cas.
D'accord. Ça t'a ouvert aussi peut-être d'autres perspectives? Parce que c'est vrai que là, depuis le début, quand on t'écoute, c'est assez dingue parce qu'on se dit, dans ta tête, il n'y avait que le short track. C'était vraiment l'objectif numéro un, retourner sur la glace, retourner en compétition. Est-ce que à ce moment-là aussi, ça t'a permis peut-être d'ouvrir d'autres perspectives?
J'ai rencontré des personnes incroyables aussi là-bas avec qui je suis restée en contact. Et ouais, ça ouvre des portes, ça ouvre un autre horizon, j'ai envie de dire. Parce que tu dis, ben oui, il n'y a pas que ça. Et puis ça t'aide aussi pour ta reconversion. Donc même si mon objectif numéro un, c'était de reprendre la glace, je me disais, bon, ben, après, je vais pouvoir faire ça. Ou même, en fait, j'avais déjà sollicité mon coach pour donner des cours de yoga aux plus jeunes. D'accord. De mon équipe.
Donc ça a ouvert quand même d'autres perspectives finalement.
Ouais, ouais, clairement.
Quand t'es revenue, donc t'es revenue de Bali il y a quelques semaines, presque mois maintenant, t'avais passé des premiers tests, mais qui à l'époque étaient trop prématurés. On t'avait dit qu'il fallait du coup repasser des tests qui ont eu lieu là il y a quelques jours quasiment. T'as eu les résultats il y a quelques jours. Qui ont été malheureusement négatifs, c'est-à-dire que c'était un non définitif de la part des médecins pour la reprise du short track. Comment t'as accueilli cette nouvelle?
Très mal, très très mal. En fait, j'envisageais à aucun moment, mais vraiment à aucun moment, qu'on me dise un non définitif. Je m'étais dit, bon, bah, la rigueur, ils vont me dire, tu dois attendre encore quelques mois ou c'est pas encore bon pour cette année, la saison prochaine ça sera OK. En fait, je sais pas, mais à chaque fois que le non définitif traversait mon esprit, je le chassais parce que je me disais ben non, c'est impensable en fait. Je me suis pas battue depuis le début avec cette idée en tête pour qu'on me dise non maintenant et puis je m'en sens capable aujourd'hui. Et donc, quand ils m'ont dit que c'était un non définitif pour la reprise du short track en compétition et à haut niveau, c'est un peu comme si le monde était en train de s'écrouler sur toi. Et là, j'ai accusé le coup de massue, et j'ai fondu directement en larmes parce que tu as toutes ces années qui te traversent l'esprit et qui te disent... Enfin, je veux dire, il y avait ma petite voix dans ma tête qui me disait « Mais tu vas plus jamais ressentir l'excitation d'avoir une course ». Ouais, c'est l'adrénaline, la glisse, la vitesse, tout ce que t'aimes tant en fait. Et je me suis sentie terriblement mal Et en fait, ils continuaient de parler et j'avais l'impression d'être dans un brouhaha pas possible. Et je cherchais des solutions et je me disais, mais non, c'est pas possible. Et donc, j'aurais proposé de signer une décharge, sauf qu'ils m'ont dit que c'était impensable parce que ma moelle épinière est beaucoup trop fragile. Et si je rechute, c'est juste que ça va être fatal. Donc voilà.
Tu avais proposé de signer une décharge pour du coup, continuer la pratique du short track, c'est ça ?
Oui.
En gros, sous ta responsabilité, en fait.
Oui.
Ce qu'ils n'ont pas accepté.
Non, impossible. Puisqu'il faut l'accord d'un médecin pour la licence. Et je leur ai dit que je pouvais signer n'importe quel document. Sauf qu'ils m'ont dit que c'était pas envisageable. Que c'était de la folie, clairement.
Là, à l'heure d'aujourd'hui, tu serais capable de mettre ta vie en danger pour repratiquer le short track ?
Là, depuis une semaine, j'accuse vraiment encore le coup. J'ai beaucoup parlé avec mes proches, avec pas mal de monde. C'est une passion, c'est vraiment une passion. Patiner, c'est comme marcher. Je fais ça depuis 20 ans. Et ouais, c'est plus qu'une passion même. C'est vraiment un besoin. Et donc, oui, j'étais clairement prête à mettre ma signature pour pouvoir de nouveau patiner. Après, est-ce que ça vaut le coup ou pas ? J'ai envie de dire, la raison dira non, mais la passion dira oui.
Là, tu es en process en ce moment. Tu es en train d'essayer justement d'analyser, cette réponse. Il se passe quoi dans ta tête ?
Je me dis que... De toute façon, j'ai pas le choix parce que personne ne m'autorisera à faire ça. Et on m'a interdit la reprise du short track à haut niveau en compétition, mais pas d'autres sports. Donc je me dis, mais ça peut te donner peut-être des idées. Et donc je suis en train de réfléchir à ça en ce moment. Puis même pour une reconversion à comment aider les athlètes.
Ah, en utilisant ton expérience du coup aussi personnel et de l'année, enfin des 10 mois que tu as vécu aussi pour le réutiliser sur d'autres personnes.
Ouais, je pense que ça peut aider. On m'a fait beaucoup de retours, notamment sur les réseaux. On m'a envoyé beaucoup de messages pour me dire que j'avais aidé beaucoup de personnes. J'avoue que je m'en rends pas compte parce que encore une fois, j'ai eu la tête dans le guidon pendant tous ces mois. Et par contre, je suis vraiment très heureuse si ça a pu aider beaucoup de monde. Et ouais, je suis prête à passer des diplômes pour que ça puisse aider.
Est-ce que tu dirais finalement aussi que cette envie de remonter sur la glace et de absolument revenir en compétition aussi sur tous ces mois de rééducation t'ont presque sauvé la vie, en fait, finalement, avec le recul ?
En fait, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit ça. Oui, je pense que de toute façon, ça a aidé d'avoir un objectif. Ça m'a forcément aidé parce que tant que je cochais pas la petite case, j'en démordais pas et je pense que ça a aidé, ouais.
Ça t'a permis de... J'imagine, on n'en a pas trop parlé, mais des hauts et des bas, très bas, il y a dû en avoir aussi.
Ouais, il y a eu des très très gros bas. De l'incertitude. En fait, ce qui est difficile, c'est que j'avais jamais de réponse à mes questions. Par exemple, quand tu te casses un tibia, on te dit, bon, bah, t'en as pour tant de temps de consolidation. Tu pourras reprendre dans tant de temps. C'est des réponses quand même assez claires. Et moi, on me disait tout le temps, mais vous savez, c'est la neuro, on ne peut pas savoir. Et donc, c'était le flou et l'incertitude en permanence. Et j'en avais marre parce que je me disais, mais je ne sais pas vers quoi je vais. Et des fois, ouais, j'étais vraiment dans le mal parce que t'es sous des doutes en permanence.
C'était l'incertitude des choses qui, du coup, t'as aussi, j'imagine, obligé à avoir des objectifs concrets à côté, des choses tangibles.
Ouais, exactement.
Pour contrebalancer cette incertitude permanente, en fait, de ta situation, quoi.
D'où les objectifs, d'où le carnet d'entraînement et d'où les petites listes où je cochais pour voir quelque chose de concret.
Là, maintenant, dans ta rééducation, c'est quoi le programme, entre guillemets ? Il y a encore une suite, tu as un accompagnement, j'imagine que tu as encore des rendez-vous médicaux qui doivent se passer. Comment ça va se passer là, dans les prochains mois ?
Déjà, je vais être suivie à vie. Donc, IRM, échographie, scanner. Et ensuite, oui, j'ai des rendez-vous médicaux régulièrement. Donc là, je vais en avoir les prochains mois. Pour la rééducation, maintenant, je la fais moi-même. Et ça aide beaucoup de pratiquer du sport. Donc, en ce moment, je roule beaucoup. Et pour le mois de juillet, par exemple, je vais faire la traversée des Pyrénées avec mon copain. Donc ça aussi, ça va aider d'être toujours en mouvement. Puis ensuite, traitement. J'ai un traitement, pour le moment, à durée indéterminée.
Et toi, tes objectifs à toi, t'arrives à t'en créer des nouveaux maintenant ou c'est encore compliqué?
Alors, pour tout dire, j'attends des réponses à d'autres questions en ce moment.
D'accord.
Je voudrais me mettre au vélo de route. Et donc, j'attends d'avoir l'accord des médecins pour savoir si tout est OK. À la suite de ça, je pense que je pourrais me fixer des objectifs. Puis ben là, je suis en train de faire une liste, ouais, parce que j'adore faire des listes tout le temps. Donc, je suis en train de faire une liste un peu de ce que je vais faire ces prochains mois, que ce soit en formation, mais aussi en challenge un peu sportif, parce que, bah, encore une fois, c'est clairement un besoin. Donc, je suis en train de regarder certaines petites courses pour me fixer de nouveaux challenges.
Toujours dans l'objectif.
Ouais.
Qu'est-ce que ces derniers mois, j'imagine qu'il s'est passé énormément de choses, que tu as dû avoir des milliards de réflexions. On l'a dit en off, mais des milliards d'émotions aussi. Qu'est-ce que tu as appris sur toi-même sur ces derniers mois?
On m'a toujours dit que ma plus grande force, c'était mon mental. Vraiment que c'est ça qui faisait la différence. Tu vois, moi, j'ai jamais été une athlète talentueuse. Je trouve qu'il y a des athlètes, quand tu les vois, bah, ils ont ça dans le sang. Ils sont pas... C'est un peu comme quand tu es à l'école. T'en as, ils ont vraiment des facilités. Ben, les athlètes, il y en a, c'est pareil, ils ont vraiment ça dans le sang. Ben, moi, j'ai clairement pas ça dans le sang. Je suis juste passionnée. Et donc, j'ai dû travailler pas plus dur que d'autres athlètes, mais j'ai toujours été très assidue avec toujours l'idée de perfer et d'avoir de bons résultats. Et donc, on m'a toujours dit que ma plus grande force, c'était mon mental. Et là, je me dis depuis quelques mois, ben ouais, c'est peut-être ça que j'ai appris de moi. Que oui, c'est le cas. Et je ne l'avais jamais dit avant, mais oui, je pense que j'ai un mental de tête dure. Et voilà, c'est ça. Puis qu'il faut croire en soi, vraiment.
Tu as été accompagnée aussi par des psychologues, d'ailleurs?
Oui et non. Alors au début, j'ai tenu au courant ma psy. Et puis en fait, j'avais pas la tête à ça. Vraiment, j'avais envie juste de reposer uniquement sur moi-même. C'est un peu bizarre parce que dans des moments aussi douloureux, je pensais justement me tourner vers quelqu'un. Et en fait, pas du tout.
On n'a pas ressenti le besoin. Au contraire, t'as rejeté un peu ça.
Exactement, ouais.
Pourquoi ? Comme si tu devais surmonter ça uniquement par toi-même ?
Mais en fait, je savais pas quoi dire. Parce que pour moi, vu que j'étais pas dans
Si cet
dans le
épisode
sport,
vous a plu, n'hésitez pas à vous dire. Abonner à Championne du Monde sur les plateformes d'écoute et à nous laisser commentaires et étoiles sur Apple Podcasts. Et rejoignez-nous sur Instagram pour plus de news et infos sur le sport féminin. À bientôt. C'était compliqué.
Ouais, ben c'est ça. Je me disais, mais en fait, qu'est-ce que je vais raconter ? Je vois pas comment on peut m'aider.
C'est vrai ? Alors que des choses à dire, j'imagine qu'il y en avait plein.
Oui, ouais, il y en avait plein, mais je ne sais pas, je me tournais vers mon entourage et pour moi, c'était suffisant.
Tu sens que malgré du coup ce non-accompagnement et cet accompagnement intra-personnel, du coup, c'est un peu ça, tu te sens solide là quand même, à l'heure actuelle ? Est-ce que tu te sens même presque plus solide qu'avant ton accident ?
Ouais, quand même, je pense que... En fait, ça m'a permis de relativiser aussi beaucoup. Donc, je me sens solide dans le sens où ben, je relativise. Et je ne sais pas comment dire. Tu vois, si par exemple, il y a quelque chose qui va se passer, tu vas dédramatiser la situation et ça ira. Donc, je trouve que ça rend plus solide. Mais ce n'est pas je m'en fous de tout et tout est beau et tout est cool. Mais ouais, je me sens quand même vraiment plus solide qu'avant.
Le fait d'avoir traversé des choses hyper difficiles... Et horrible, du coup, te permet maintenant aussi de voir quand les moments sont justement plus léger.
Mais clairement, déjà, le plus beau moment que j'ai passé durant, pas durant tous ces mois, mais en tout cas durant le mois où j'ai été aux Pays-Bas, c'est quand on m'a douchée pour la première fois. En fait, on ne m'a pas douchée pendant une semaine, donc c'était horrible. Et quand on m'a douchée pour la première fois, mais là je me suis dit, mais en fait, les petits gestes comme ça, du quotidien, on s'en rend juste plus compte. Et quand j'ai pu prendre ma douche toute seule pour la première fois à Lyon, je me disais, mais le pouvoir de l'autonomie, c'est quand même incroyable. On ne se rend pas compte de la chance qu'on a.
T'as l'impression d'être une autre personne, maintenant ?
Non, mais je me rends compte maintenant, ouais, vraiment de la chance qu'on a de pouvoir être autonome.
Avec tout ce que tu as traversé, on se dit pourtant, effectivement, que la Tiffany d'avant, avant l'accident, et la Tiffany de maintenant, elle a quand même parcouru un très long chemin, et qui n'est pas fini d'ailleurs, mais que ça a dû forcément aussi te moduler sous plein d'aspects. C'est pour ça que je dis, est-ce que tu es encore la même personne qu'avant ? C'est drôle que tu dises oui, enfin c'est drôle, mais c'est... et tant mieux, c'est très bien, mais je ne m'attendais pas à cette réponse.
J'attendais.
Non, c'est vrai.
J'ai juste dit. Je ne savais pas quoi dire.
C'est vrai, ce n'est pas quelque chose que tu... tu réfléchis, enfin tu ne réfléchis pas. Il y a des moments où justement tu te poses avec toi-même et tu dis « Ok, waouh, bah, j'ai traversé tout ça. » Punaise, c'est quand même un truc de ouf où tu te retrouves avec toi-même et tu te dis « Ok, putain, en fait, je suis quand même une warrior quoi, d'avoir traversé tout ça et j'ai changé en ça, en ça, en ça. » C'est des choses que tu fais où t'avances, quoi.
Mais en fait, en ce moment, ouais, je pensais juste à avancer. Puis là, depuis une semaine, je me suis vraiment posée après l'annonce des médecins. Mmh. Et j'ai regardé beaucoup de vidéos, j'ai regardé beaucoup de choses. Et mon copain m'a filmé et m'a pris en photo durant toute la rééducation, en fait, depuis le début. Et je me dis, ouais, c'est vrai que c'était quand même pas fou au début. Et maintenant, moi, je suis quand même très fière de pouvoir, rien que de pouvoir écrire ou de pouvoir serrer ma filleule dans mes bras. Donc oui, je me rends quand même compte du chemin parcouru.
J'ai lu et sur les réseaux tu parles d'un deuil. C'est le deuil de ton sport ou finalement le deuil de la Tiffany sportive?
Ah non, alors là, Tiffany sportive au grand jamais. Non, je ferai toujours du sport parce que je peux pas faire autrement. Et après, du sport, mais pas de tous les sports, du short track à haut niveau. Et ouais, on parle de petites morts pour l'arrêt de carrière. Je pense que c'est quand même assez bien défini. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai clairement l'impression qu'une part de moi est morte. Et c'est comme quand tu perds quelqu'un, tu ne te rends pas compte tout de suite que la personne n'est plus là. Et je me dis que dans quelques semaines, quelques mois, quand je verrai de nouveau des courses, quand je verrai que la saison est de nouveau lancée, ça va me faire mal, donc je travaille là-dessus. Mais ouais, un deuil à faire, clairement.
Et le fait de se dire que tu as la chance aussi de continuer à pouvoir faire du sport aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, j'imagine que ça, c'est pas forcément quelque chose qui atténue un tout petit peu ta peine.
Je me rends compte quand même de la chance que j'ai de pouvoir marcher, de pouvoir être en bonne santé et de pouvoir être autonome. J'ai passé quand même de longs mois avec des personnes qui sont en fauteuil, des personnes qui ne pourront plus jamais marcher. Et je sais ce que c'est. Donc, j'ai quand même énormément de chance et je suis heureuse de pouvoir faire d'autres sports. C'est juste que j'ai tellement été persuadée que j'allais pouvoir reprendre le short track que ça fait un gros gouffre qui s'est ouvert devant moi. Ouais, la semaine dernière.
Oui, c'est vrai que c'est encore très frais pour le moment. Tes envies rapides, on va dire, sur le court terme, c'est quoi ? Qu'est-ce que tu as envie là, pour les prochaines semaines, les prochains mois ?
Rouler. Je vais beaucoup rouler. Ça me fait énormément de bien. Déjà, le short track, bon, encore une fois, c'est un sport magnifique, mais c'est un sport d'intérieur. Mm-hmm. Et du coup, le fait de pouvoir pratiquer un sport outdoor, ben, c'est trop cool parce que tu es avec la nature, tu vois des paysages, tu peux aller où tu veux, quand tu veux. Enfin, je trouve ça vraiment trop cool. Donc ouais, rouler et puis me préparer pour cette fameuse traversée des Pyrénées.
Les enjeux sportifs, les objectifs sportifs, ça continue.
Ouais, toujours.
C'est fou de t'écouter, de sentir justement cette force de caractère aussi que tu as et de toujours aller vers l'avant. C'est fou, on sent presque peu de failles, je trouve, quand tu parles, alors qu'on comprend très bien que ça a été un roller coaster de haut et de bas, mais on a le sentiment, en tout cas, quand on t'écoute, qu'il y a énormément de force, en tout cas, qui se dégage de toi. Je ne sais pas si tu t'en rends compte, toi, personnellement, mais tu fais non de la tête. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter aussi pour la suite, pour les gens qui t'entourent aussi, en fait, qu'est-ce que tu attends aussi des autres? J'imagine que je sais pas si tes relations avec les autres aussi ont changé, ont évolué. Est-ce que
moi j'aimerais juste qu'on m'autorise à faire de nouveau la course, vraiment que je puisse de nouveau ressentir ça,
quelle qu'elle soit du coup.
Oui, quelle qu'elle soit. Si c'est dans le vélo, bon, c'est cool. Si c'est dans un autre sport, c'est cool aussi. Donc ouais, j'espère vraiment ça.
Est-ce que les perspectives aussi de yoga, parce que finalement aussi ton parcours de vie t'a amené aussi à faire d'autres choses qui te trottaient dans la tête depuis un certain temps et que t'avais pas eu le temps de concrétiser, c'est aussi quelque chose qui t'importe?
Ah ben clairement, je fais du yoga et de la médite tous les jours, donc ça c'est essentiel pour moi, pour mon bien-être. Et puis faut pas croire, le yoga c'est difficile aussi, donc non, c'est vraiment beau comme pratique et je vais continuer d'exercer.
T'es fière de toi? T'arrives à te dire que t'es fière de toi?
Tellement bizarre comme question, on m'a jamais posé ça comme question. Oui, je crois, oui.
C'est quand même un chemin incroyable que t'as parcouru et que t'as réussi à surmonter, entre guillemets, les obstacles qui s'est passé devant toi. Donc c'est vrai que j'imagine que les autres doivent te dire qu'ils sont fiers de toi, non?
Ouais. Ouais, surtout ma famille.
Et le soutien de ton copain.
Ouais.
et justement, si toi, il y avait un enseignement finalement de ce parcours, qui n'est pas fini bien évidemment, hein, c'est un parcours jusqu'à la fin de ta vie, tu le disais toi-même, hein, finalement c'est un accident qui fait partie de toi et donc du coup qui sera là pour toujours. S'il y a quelque chose, en tout cas, que cet accident terrible t'a appris, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu retiens vraiment de ces derniers mois très difficiles?
Même si la fin n'est pas celle que j'aurais souhaitée, je dirais qu'il ne faut jamais perdre espoir. D'ailleurs, c'est mon tatouage sur mon avant-bras que j'avais fait avant l'accident, il y a bien avant. Et je me suis toujours dit ça. Mais aujourd'hui, ça prend encore 1000 fois plus de sens. Je me le suis toujours dit, mais ouais, il ne faut jamais perdre espoir. Parce que ça vaut le coup de se battre et qu'il faut vraiment croire en soi, ouais.
T'es optimiste pour le futur?
Clairement, oui. Là, c'est dur en ce moment, mais ouais, bah comme tu disais, il faut aller de l'avant, toujours. Je trouve que ça vaut quand même vraiment le coup de se battre, d'aider les autres, puis la vie est belle quand même, donc.
Tout à fait. Une question aussi que je pose toujours dans le podcast, qui s'appelle Championne du monde. Quelle est ta définition, toi, de ce qu'est une championne?
Je me souviens, tu m'avais déjà posé la question quand on avait fait le podcast
Info-Romeu.
Mmh. Ouais, mais ma réponse était très bien. Je m'en souviens plus d'ailleurs.
Peut-être que du coup, ta définition a changé aussi maintenant.
Ouais. Je pense qu'une championne du monde, c'est une championne.
Une championne.
Une championne, juste une championne. Une championne, c'est quelqu'un qui croit en soi très fort et qui n'a pas de barrière, pas de limite. Ça, c'est important. Par exemple, Clarisse, Je trouve que c'est très beau parce qu'elle y a cru, elle y a toujours cru. Elle s'est dit, bah, ok, je viens d'avoir un bébé et c'est pas pour autant que je vais pas y arriver. Et ça, pour moi, c'est la définition claire d'une championne.
Toi, du coup, t'as pas de limite ?
Non, j'ai pas de limite.
Les pètes toutes. On fonce.
J'essaye en tout cas.
Bah, je crois qu'en écoutant en tout cas ton récit, c'est clairement ce qu'il en ressort en tout cas. Et c'est la capacité aussi assez incroyable que tu as à aller de l'avant. C'est assez fou, je trouve, de dépasser tout ça en tout cas, non sans mal bien évidemment, hein, mais en tout cas ta capacité à avancer et à toujours garder aussi de l'espoir et à savoir, comme si tu savais de toute façon que tu allais guérir et retrouver pratiquement en tout cas toutes tes capacités. Je trouve que c'est ce qui ressort et ce qui est assez incroyable. Tu crois au pouvoir de l'esprit aussi ?
Je vais passer pour une folle si je dis oui ou pas ?
Je pense pas. Non, pas du tout.
Ok. Non, plus sérieusement, le mental, c'est le mental, l'esprit, tellement important pour moi. Mais beaucoup plus que le corps physique. Et oui. Et je pense que la méditation, c'est clairement une clé de la performance, vraiment. Mais que ce soit dans la vie de tous les jours, comme dans le sport de haut niveau.
Mmh. Ouais, j'y crois aussi beaucoup. Tu penses que ça t'a permis aussi d'aller mieux et au-delà de ton physique, effectivement, et d'un point de vue médical aussi, de te permettre de guérir plus vite ?
Clairement, oui. Bon, j'en suis persuadée. J'ai beaucoup médité, beaucoup, beaucoup. Et je suis persuadée que ça m'a vraiment aidée. Mais plus que persuadée, même.
S'il y avait, juste pour peut-être conclure ce podcast, un message que tu souhaites passer aux personnes qui traversent aussi des périodes difficiles, qui ont eu des accidents, pour le coup, des maladies, c'est un peu différent, mais en tout cas, qui traversent aussi des pépins physiques compliqués et que tu aimerais transmettre, et comme on disait, les apprentissages aussi que toi tu as eu durant ce parcours-là, qu'est-ce que tu aimerais leur dire ?
Moi, il y a une phrase que je me disais beaucoup à l'hôpital, c'est « Après les ténèbres, la lumière ». Et ça me parle beaucoup, parce que quand on est vraiment au plus mal, et qu'on doute, et qu'on est dans l'incertitude, ben, il faut toujours essayer d'être positif, parce que on dit que le positif attire le positif. Ben, c'est vrai. Et encore une fois, le pouvoir de l'esprit, le pouvoir du mental, ça joue énormément. Donc, ouais, encore une fois, croire en soi aussi. Et puis, ne pas garder les choses pour soi et se renfermer. Vraiment parler, que ce soit avec des amis, de la famille, n'importe qui, à n'importe quel moment, mais je trouve que c'est important.
Tu te sens plus sereine maintenant vis-à-vis de la vie ?
En tout cas, plus précieuse. Je trouve que la vie est précieuse, vraiment. On dit que quand tu frôles la mort, tu te rends compte que tu n'as qu'une seule vie. Oui, c'est vrai. Mais ouais, je me sens quand même assez sereine. En tout cas, je me sens bien.
C'est super. Bah, du coup, j'ai envie qu'on finisse là-dessus parce que je trouve que c'est un beau message aussi. C'est un message positif et c'est assez incroyable. Merci en tout cas de partager ton histoire aussi et de finir sur cette note positive parce qu'effectivement ça n'a pas toujours été facile et d'autant plus avec cette décision aussi dernièrement. Ouais. Et bravo à toi.
Merci à toi.
Bravo Tiffany. Et écoute, merci encore pour ce moment passé et je suis sûre que la suite est très belle.
J'espère.
C'est une certitude et vu le caractère que tu as, j'en suis absolument persuadée et la force de caractère que tu as qui est assez incroyable et je pense qu'il se ressent vraiment énormément dans tes mots et dans cet épisode. Donc voilà, bravo à toi et merci pour ce témoignage précieux. Écoute, je te souhaite une sublime continuation et je ne pèse pas mes mots, c'est-à-dire que vraiment je te souhaite de t'éclater aussi, si c'est pas dans le short track, dans un autre sport, et de trouver des sensations qui te plaisent et dans lesquelles tu t'épanouis. Et voilà, et que la vie soit joyeuse. Merci beaucoup, Tiffany.
Merci.
À bientôt.
À bientôt, oui.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.